On va prier pour que le Seigneur bénisse ces moments. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous avons le privilège d'être devant toi, parce que Jésus, ton Fils, a donné son sang précieux, a donné ses angoisses, a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés et que maintenant tu puisses nous appeler tes enfants. Seigneur, on te demande d'ouvrir ta parole, c'est la tienne, et que par ton Saint-Esprit, tu nous enseignes toi-même. On veut que nos cœurs soient libres de toute entrave, de tout souci, de tout fardeau, pour que tu puisses nous parler au nom de Jésus. Amen. On va lire dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12. On lira les versets 20 à 27. 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Philippe nous avait cité ces versets pour prendre la Sainte Cène, puisque nous prenions le corps de Christ, bien sûr. Et puis, ce développement que nous connaissons bien m'est revenu, c'est tellement important, le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble. Et on voit qu'il y est fait beaucoup d'attention à ceux qui ont le plus de difficultés, c'est l'Esprit du Seigneur. Alors, notre salut éternel à chacun est personnel. Le Seigneur Jésus a pris les péchés de chacun de nous, personnellement, pour les effacer et offrir à chacun de nous, en particulier, la vie éternelle. Et puis, l'expérience de chacun de nous, de moi en tout cas, prouve que je continue ma vie chrétienne souvent avec le Seigneur dans la même direction, à savoir ma relation personnelle avec lui. Et il en faut une, évidemment, et plus elle est profonde, et bien plus c'est bien. Et la conduite de notre vie, de nos projets, nos décisions et nos relations, se fait souvent uniquement par rapport à notre marche individuelle. Or, ceci n'est pas du tout le plan de Dieu pour notre vie spirituelle. Si on vient de relire ces passages qu'on connaît depuis 50 ans ou plus, les versets que nous avons lus indiquent une direction différente, bien que la direction personnelle reste évidemment nécessaire. On le dit bien sûr, évidemment. Ainsi, il nous a dit, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Maintenant, si on va chercher dans l'Épître aux Hébreux, donc on va ouvrir Hébreux 3, et on lira les versets 13 et 14 que nous avions déjà médité. Hébreux 3, 13 et 14. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Donc, le verset 13 nous montre que nous sommes tous responsables les uns des autres, puisqu'il nous est dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Nous sommes participants de Christ, compagnons de Christ, on l'a eu dans la tradition d'Arby, mais nous sommes aussi participants de nos frères et sœurs dans le corps, et compagnons de nos frères et sœurs. « Exhortez-vous les uns les autres, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc l'Église de Jésus-Christ, elle forme un corps. Et ce corps, dans l'assemblée locale, c'est l'assemblée locale et c'est les membres du corps. Ça paraît une évidence à dire, mais si on réfléchit, le Seigneur veut que ce soit une réalité à vivre. Qu'un membre soit malade, il nous était dit ici que tout le corps en souffre. Et effectivement, tout le corps peut être en danger, aussi spirituel. Donc ma vie, la vie de chacun de nous, doit avoir pour but, non pas de ne prendre soin que de moi-même, le Seigneur va prendre soin de chacun de nous, bien sûr, on le redit, que ce soit clair, mais Le but premier, c'est de prendre soin du corps de Christ dont nous faisons partie. Et quand j'ai préparé ces versets que j'avais reçus depuis 15 jours, ça me travaillait, écoutez, je me suis aperçu que je n'ai pas compris complètement cela jusqu'à ce soir. Pas compris complètement ce que le Seigneur veut dire dans la priorité de notre relation avec les autres. Et cette réalité, on pourrait dire, souvent ignorée, pas toujours, dans l'Église actuelle, c'est-à-dire que chacun, moi le premier, ne pense qu'à moi-même, en quelque sorte, qu'à moi-même. Si ça va bien avec le Seigneur, si je suis en relation avec lui, je fais ce qu'il me demande. Mais ça, et l'apôtre Paul le vivait déjà. On va prendre dans Philippiens 2, bien sûr on connaît ces versets. Philippiens 2, c'était déjà pareil, l'ennemi faisait le même travail. Et on lira les deux versets 20 et 21. Alors, Philippiens 2, versets 20 et 21. Il dit ceci, c'est clair, ça sonne fort, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Fermez le livre. Il y a deux versets. Mais ces versets, ils sont terribles. À l'époque de Paul, pourtant, c'était quand même quelqu'un qui était connu, un ministre de Jésus-Christ, connu, aimé, respecté. Eh bien, malgré tout, personne ne partageait ses sentiments. Ses sentiments à Paul, c'était ceux du corps de Christ, dans tout ce qu'il a écrit, mais dans tout ce qu'il a vécu aussi. Et personne ne partageait, tous cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Et puis moi aussi, souvent, je fais pareil. Alors, Seigneur veut nous enseigner, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr, mais je crois que si le Seigneur nous parle, ben voilà. Alors, je disais comme ceci, j'ai marqué cette phrase, il faudrait presque complètement inverser ma vie chrétienne dans son orientation. Qu'elle ne soit pas pour moi, mais pour le corps de Christ. Et nous en avons une certaine, bien sûr, une certaine connaissance. Nous en avons aussi un désir. Mais peut-être que le Seigneur veut encore aller beaucoup plus loin. Et dans Hébreux 3, on était toujours dans Hébreux 3, on va revenir maintenant dans Hébreux. Hébreux 3, on va lire les versets 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance que nous glorifions. Sa maison, c'est nous, et ce n'est pas moi. Ça fait sourire, mais c'est tellement profond. Sa maison, c'est nous ensemble, le corps de Christ. Et nous sommes une pierre de la maison, la pierre angulaire étant le Seigneur Jésus. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la persévérance et l'espérance que nous glorifions. Et une des causes, on peut réfléchir, mais une des causes du manque de persévérance, c'est que je ne prends pas soin des autres comme Christ le voudrait. Parce que nous n'avons pas cette révélation, du moins nous ne la cultivons pas, je ne la cultive pas. Et c'est à nous-mêmes que nous faisons du tort, autant qu'à nos frères et sœurs, donc à l'Église de Jésus-Christ. La santé spirituelle de chacun de nous, on peut dire, en fait, est intimement liée à celle des autres et à ce que nous faisons pour eux. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Il est dit, prenez garde, frères, ça c'est le verset 12 que nous avions du départ, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et le verset 13, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous les uns les autres. Alors, les chrétiens, nous sommes tenus de nous exhorter les uns les autres. C'est notre devoir et c'est aussi notre droit qui découle du fait que nous sommes membres du corps de Christ. S'exhorter les uns les autres. On se regarde tous, il y a du travail, hein, et il y a du travail que je ne fais pas. Pas suffisamment. Et l'esprit qui anime ce corps, l'esprit du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ, et c'est un esprit d'abnégation et de sacrifice au service des autres. C'est ce qu'avait démontré Paul, et c'est ce que n'ont pas voulu ses contemporains, puisqu'il n'y avait personne qui partageait ses sentiments. Vous vous rendez compte? Et c'est probablement pour chacun de nous, à nouveau, non pas une découverte, mais on dirait une réalité que le Seigneur veut imposer pour que notre Église grandisse. Je pense que pour ma part, il manque cette notion du corps de Christ et le service que je dois au corps de Christ ici et que je ne fais pas. J'en suis persuadé. Et si chaque membre consent humblement à aider et à être aidé, c'est les deux qui vont ensemble bien sûr, alors le corps entier sera vivant. Et la communion fraternelle, on en parle beaucoup, eh bien, elle doit être prouvée par l'exercice d'un, je dis marqué comme ça, d'un ministère pratique d'amour et de soins mutuels. C'est magnifique, en fait, ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Donc, pour que ce soit pour nous tous ensemble. Et il nous était dit au verset 13 de chapitre 3, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Nous savons l'importance qui est donnée par le Saint-Esprit au mot « aujourd'hui ». Nous savons qu'il faut en faire une application personnelle, mais il faut aussi penser dans le rapport avec les autres et nous rappeler que pour eux aussi, il y a danger à laisser passer les occasions si nous ne sommes pas ceux que le Saint-Esprit peut envoyer pour nos frères et sœurs. C'est pour ça que Galates 6 au verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, et ne nous relâchons pas. » Et au verset 10 du chapitre 6, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Nous avons une priorité entre nous, la priorité d'être des frères et sœurs de Jésus-Christ, des frères et sœurs entre nous, et de développer une vie d'amour, une vie d'exhortation, une vie de soins entre nous, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors cette phrase, elle est là. C'est-à-dire que si on ne s'exhorte pas, si on ne prend pas soin de ceux que Dieu nous montre, on a vu dans les Corinthiens, de ceux qui peuvent se tromper, de ceux qui sont faibles, de ceux qui ne vont pas bien, eh bien, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est trompeur, mais l'apparence souvent ne l'est pas toujours. Et si, à cause de mon manque d'intérêt pour les autres chrétiens, ou par mon indulgence coupable sur de mauvaises habitudes d'un frère ou d'une sœur, celui-ci s'endurcit dans cette mauvaise voie, dans cette séduction, eh bien, j'en serai responsable si je n'ai pas veillé sur mon frère ou sur ma sœur pour l'exhorter, et si lui ne m'exhorte pas. C'est capital, cette phrase. Nous sommes responsables que nos frères et sœurs, et que moi-même, avec vous qui me reprenez, ou m'aidez, ou m'encouragez, aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le but du diable, c'est de nous endurcir dans la séduction du péché. Et les péchés ne sont pas souvent criants. Ils sont séduisants, la séduction. Et ils n'ont qu'un but pour Satan. C'est nous éloigner de Jésus-Christ, souvent tout en douceur, mais petit à petit. Que notre amour, eh bien, qu'il n'y ait plus le vrai amour, comme il dit dans l'Apocalypse aux Églises. Alors on peut dire que cette bonne santé spirituelle de chacun, nous ici, puis de ceux qui ne sont pas là, mais qui seront là, eh bien, elle dépend de cette mesure, de cette tâche spirituelle tellement importante que le Seigneur veut nous mettre à cœur, peut-être nous rappeler, ou je dirais même pour moi, me révéler complètement, parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et il faut ainsi que tous les membres du corps soient bien unis et se soutiennent les uns les autres pour former un solide assemblage. Et on le trouve, on va le lire, dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. On lira les versets 13 à 16. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On retrouve, les mots sont magnifiques dans la Bible, ils sont ciselés comme des diamants. C'est extraordinaire que ce que le Seigneur nous dit, c'est pour ça que c'est toujours une façon nouvelle quand on la lit. Ça, on le sait, hein, bien sûr. Et maintenant, quelles sont les armes ou les moyens pratiques, il faut parler, de notre soutien aux autres membres du corps de Christ? Comment est-ce que le Seigneur me donne, qu'est-ce que je dois faire en quelque sorte, sous sa responsabilité, pour que je sois efficace, pour que j'aime mon frère et ma sœur, pour que je fasse ce travail dans le corps qui est indispensable, sinon l'Église meurt? Eh bien, c'est d'abord la prière. Est-ce que j'ai, et je n'ai pas toujours, la prière profonde, la prière de fardeau pour tous mes frères et sœurs de mon Église? Il y en a aussi d'autres, bien sûr, mais on est responsable de là où Dieu nous met. Est-ce que dans ma journée, il y a un temps suffisant, un fardeau suffisant pour ceux qui traversent la difficulté, pour ceux qui n'y arrivent pas, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui se trompent, pour ceux qui abandonnent? Et le Seigneur nous dit, c'est aujourd'hui que ma prière, que mon cœur doit souffrir pour mes frères et sœurs, pour passer un temps de prière suffisant. Et on sait que Dieu va répondre à ces prières du cœur. Et aujourd'hui, chaque jour, on voit bien, hein. La deuxième chose, c'est l'amour grandissant que le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur, si ce service est notre priorité. Si nous prions pour nos frères et sœurs de plus en plus et que nous nous y attirissons, il mettra en chacun de nous l'amour grandissant. Sinon, il n'y aura pas d'amour. Il y aura une relation. Bonjour, tu vas bien? Ah, ben, je suis bien content pour toi, dimanche prochain. Ben, c'est un petit peu le catalogue, mais c'est vrai. Ben, pour moi, ça l'est encore, et je le regrette. Et puis alors, il y a aussi de demander à Dieu dans nos prières de nous mettre sur le chemin de chaque frère et sœur qu'il nous destine. Il nous destine à chacun, les uns, les autres. Et que dans notre prière, on puisse demander, Seigneur, montre-moi vers quel frère et sœur, il y en aura qui seront communs, évidemment, mais d'autres qui seront plus spécifiques, parce qu'il nous les dessine, parce qu'on aura un ministère plus précis vers l'un et l'autre. Et si nous avons un frère et sœur sur notre route, il y a des éléments que le Seigneur nous donne dans sa parole. Il faut écouter celui qui nous parle, sans parler. Pendant longtemps, je n'ai pas su le faire. Demandez à Dieu qu'il m'apprenne à le faire. Écoutez. Écouter, ça ne veut pas dire entendre et puis attendre que ça passe vite. Écoutez ce que nous dit le frère ou la sœur, sans parler. Ne pas juger. Ne pas juger ne veut pas dire ne pas voir la vérité. Ne pas juger, c'est Dieu qui juge. Et puis, il nous faut dire la vérité aux membres du corps de Christ qu'il met sur notre route. La vérité selon la parole de Dieu, pas d'autre vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre. Il nous faut encourager. Il nous faut reprendre, c'est l'apôtre Paul lui dit, 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, reprendre avec toute douceur et instruisant. Les mots sont précis dans notre démarche vis-à-vis de nos frères et sœurs. C'est, là aussi, c'est ciselé, c'est doux, mais ça doit pouvoir, par le Saint-Esprit, convaincre. Convaincre de péché et de jugement. Et puis, cette parole, Romains 12, 5, pleurer avec ceux qui pleurent. Oh, pendant des années, moi aussi, j'ai dit, arrête de pleurer et sois fort comme moi. Tu parles. Jusqu'au jour où nous aussi, on passe dans l'épreuve. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai fait ça, peut-être pas vous. Alors maintenant, les moyens pratiques, eh bien écoutez, il y a les visites. Il y a l'Église d'abord, le temps où on se retrouve, mais on n'est pas souvent ensemble. Il y a les visites. Les visites, c'est capital. Et pour visiter, on n'a peut-être pas de voiture, mais on a quasiment tous un téléphone. Non, pas quasiment, on en a tous un. Même deux, des fois. Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir.